Merci Jacob de me céder la parole. Et puis merci beaucoup Lucia Angelino pour l'organisation de ce colloque de manière vraiment admirable et merci pour ça. Et merci Frédéric Worms qui quand je suis quand je l'ai rencontré m'a tout de suite dit qu'il fallait faire quelque chose sur Jean-Luc et donc j'ai pu ouvrir cet atelier dont tu parlais. Alors, donc j'ai posé en exergue un extrait du livre de l'écrivain Gérard Allaire, Commun des mortels, paru en 2004 chez Galilée. Gérard Allaire, dont tous les livres ont été écrits et lus singulièrement avec Jean-Luc Nancy, puis une phrase du philosophe Thomas Maya, recueillie dans un texte intitulé Égalité de l'art, paru en 2020 chez Sistema Solar à Lisbonne et figurant dans l'ouvrage collectif qu'il dirige, donc Persistance de l'œuvre 1, Art et politique, il y a aussi un 2, Art et religion, dans lequel Jean-Luc a écrit un texte intitulé, le premier, enfin le 1, Art et cité, auquel je ferai un écho plus loin. Voici l'extrait donc de Gérard Allaire. Et voici. Au commencement est le monde, et le monde est sans Dieu, et le monde est tout le divin qu'il y a. Il est l'incessante venue en commun de chaque un avec tous les autres. Toutes choses ici comparaissent, et rien ne saurait autrement paraître. En commun est la vie, et la vie est le temps des mortels, et la mort est dans ton sein déjà, et ton sein lui livre passage. Voici la phrase de Thomas Maya. L'art s'adresse au commun des mortels. Que l'existence soit son propre sens. Titre de la présente conférence est en fait ce qu'on appelle grammaticalement une complétive en position détachée et qui, placée en tête de phrase, relève d'une dislocation emphatique dont la valeur de vérité est suspendue à la suite que je vous donne ici et maintenant. Et que nous trouvons dans une des premières versions d'un texte de Jean-Luc Nancy intitulé « L'art fragment », repris et modulé dans le sens du monde, en 93 chez Galilée. Il faut dire d'ailleurs en passant que cette reprise et cette modulation ont affaire avec le motif dont nous parlons dans le colloque, puisque le mot « communauté » c'est « moduler » en « être en commun », « être avec », « être les uns avec les autres », « être ensemble », « être à plusieurs ensemble », « entre nous »,« nous », et je dirais même nu, pour faire signe vers le titre du livre coécrit avec Federico Ferrari, Nu sommes, dont voici un passage, la suite de la proposition qui fait le titre de la présente conférence. Que l'existence soit son propre sens, voilà l'enjeu très simple qui fait tout notre événement, encore largement à venir, et pourtant déjà largement survenu, à notre insu. Voilà donc la phrase de Jean-Luc Nancy, à partir de laquelle je vais essayer de dire ou tirer quelques fils, en demandant avec lui si l'art est à même de toucher à ce sens du sens, et là nous passons du subjonctif à l'indicatif, toucher donc à ce sens du sens, que l'existence est son propre sens, que l'existence est la surprise du sens, que le sens est la nudité de l'existence. Cette demande, Jean-Luc Nancy l'a formulé, nuancé, modulé, depuis que les artistes et les œuvres l'ont requis, c'est-à-dire très de frayage de pensée et de plus en plus intensément et passionnément. C'est le peintre François Martin qui, le premier, l'a sollicité au milieu des années 70, et ensemble, pendant plus de 30 ans, ils vont contracter, c'est-à-dire proprement tirer ensemble, tracer et dessiner un être avec inouï, ce que Jean-Luc Nancy décrit ainsi, donc on trouve ça dans Niom, catalogue d'une exposition commune. C'est un contrat non pas entre quelqu'un qui est déjà constitué comme peintre et quelqu'un qui est déjà constitué comme philosophe, mais c'est un contrat par lequel simultanément le dit peintre et le dit philosophe se sont mis à exister. Et du coup, en effet, on ne peut même plus dire peintre ou philosophe, on ne sait plus de quel côté est l'un ou l'autre. Se mettent à exister deux termes d'un rapport, d'un lien, eux-mêmes indissociables, du lien qui les lie, et qui reste pourtant deux. Qui se souvient d'ailleurs du dessin fait au crayon aquarellable donné par François Martin pour l'édition de la Communauté des œuvrés chez Bourgois. dessins aquarelles qui n'illustrent pas, ne représentent pas, bien sûr, le motif du commun ou du désœuvrement, mais va sur le motif et laisse venir le motif, l'événement, le fait advenir, c'est-à-dire le rencontre ou l'existe. Qui se souvient d'ailleurs que Jean-Luc Nancy, invité à un colloque intitulé « Éthique de l'esthétique » à Leipzig, au début des années 90, répondit à l'invitation en proposant à François Martin de l'accompagner avec une proposition formelle commune afin de faire droit au minimum d'éthique par rapport à l'esthétique, c'est-à-dire faire droit à la forme ou à la forma formans, la formation de la forme. Tout l'éthos de Jean-Luc Nancy est là. Une manière de tenir, de se tenir, un savoir tenir, un savoir se tenir à ce qui le meut et l'émeut, c'est-à-dire en même temps une manière d'entrer dans un non-savoir qui ne relève plus du savoir, soit ce qu'il a appelé une pensée dérobée et qu'il approche ainsi, je le cite. La pensée dérobée pense ceci. Nous sommes là pour rien. Le monde est là pour rien. Nous sommes au monde pour rien. Et c'est ce que veut dire être au monde. Penser ce rien, c'est penser la pensée nue, la pensée qui ne fait qu'appeler son passage à l'autre sans intention, au-delà de toute intention, rien, rien que pour être entre nous, rien que pour être au monde, et ce pour-là est un pour sans intention, sans projet et sans fin. Jean-Luc Nancy répond à la demande du sens en se mettant en jeu, nous pouvons dire en sens et en tous les sens, ou encore en se laissant, comme il l'écrivait, transformé en concrétude et en praxis du sens. Aussi bien Jean-Luc Nancy est mis en jeu, requis, mobilisé par la demande ou la redemande d'un sens qui n'est jamais donné, mais bien plutôt qui est la demande de son don. C'est toute l'aventure du sens, en tous les sens, que de se redemander, et c'est toute l'aventure qui annonce Jean-Luc Nancy, que d'aller vers et de laisser venir l'inédit, toujours en suivant Matisse, comme Matisse. Le désir de la ligne, aussi bien le désir de commencer à nouveau, toujours attentif au bouger du sens, toujours dans une disposition, une inclination à faire bouger, aussi bien l'exposition théorique que l'exposition artistique. Que l'existence soit son propre sens, voilà l'enjeu très simple qui fait tout notre événement, encore largement à venir et pourtant déjà largement survenu à notre insu. Cet enjeu qui fait tout notre événement est ce que dans la communauté des œuvrés, Jean-Luc Nancy appelle, je le cite, l'enjeu de l'en commun, ce qui donne jeu et jour à la pensée, jusqu'au jeu de ces mots, où ne s'expose en réalité rien de moins que notre communication. Cet enjeu qui fait tout notre événement est l'enjeu de ce que nous appelons art singulièrement, un nom relativement récent, mais un frayage aussi vieux que l'humanité, et dont la persistance ou l'insistance inquiète, déstabilise et dérange ou étrange toutes les assignations et toutes les incitations. Jean-Luc Nancy aime à ce propos faire écho à ce qu'en dit Freud, par exemple dans Le plaisir au dessin, il écrit « Freud a raison, l'art détient sur nous-mêmes un savoir qui excède à tout autre, et ce savoir est conformé comme un dessin, non comme un langage. » C'est l'enjeu d'un art encore largement à venir, et pourtant toujours déjà largement survenu à notre insu, d'un art étranger ou « unheimlich », à son concept d'un art en excès ou en retrait de lui-même. Inlassablement, sans relâche, mais d'une manière enjouée, Jean-Luc Nancy s'est laissé toucher par cet étranger, ou étrangement, venu d'ailleurs au cœur de l'ici même. On pourrait se demander en passant si cet étranger ou étrangement n'est pas la touche de l'en commun lui-même. C'est son éthos, à Jean-Luc Nancy, notre éthos, le monde nous oblige, nous enjoint, et cette obligation, cette injonction, c'est l'étrangeté même. Inlassablement, sans relâche, mais d'une manière... mais d'une manière enjouée, il s'est demandé si l'art touche, un toucher qui inquiète, déstabilise et dérange, si l'art touche à l'événement, justement, d'être, qui se dit aussi existence. Si l'art est, autrement dit, un toucher d'exister. Nous nous demandons avec lui, nous nous laissons demander, comme il s'est laissé demander. Si nous faisons avec l'art, avec les arts, car il n'y a pas l'art en général, mais chaque fois un art, innombrable, si nous faisons donc avec eux l'épreuve, je le cite, d'un accès partagé à notre commune présence. Peut-être nous faut-il nous redemander avec lui ou nous laisser redemander ce que sens veut dire en tous les sens, c'est-à-dire aussi bien ce que nous veut le sens en tous les sens. À cela, il répond qu'il nous faut essayer de rejoindre les lieux où dans le monde ça fait sourdre ou surgir du sens. L'atelier aura été pour lui un de ces lieux. Il en visita plus d'un, y dormit parfois, y rêva peut-être, y désira sûrement. Un désir que Jean-Christophe Bailly, dans son atelier infini, appelle le désir d'un lieu sans demeure. Un lieu sans demeure. Cette expression ne désigne-t-elle pas justement le sens en tous les sens ? Un lieu sans demeure, cela ne dessine-t-il pas également et singulièrement l'avec lorsque nous disons que quelque chose ou quelques-uns sont les uns ou les unes avec les autres ? Un lieu sans demeure, soit un lieu excédant toute mise en demeure, surprenant toute attente, mais aussi toute volonté d'inattendre. Un lieu sans demeure déjouant ainsi l'assignation de l'art comme présentation sensible du sens, de l'idée, de la vérité ou de l'être, présentation visible d'un invisible, schème ontothéologique de l'image, visible du Dieu invisible, ou encore plus à vif pour nous ici et maintenant, déjouant l'idée de l'art lui-même, s'épuisant et se consumant souvent dans une volonté, une quête de sens comme signification, y compris dans une exténuation du sens et des sens, un désir suprasensible. Faisant symptôme contemporain de cela, le récit que Jean-Luc Nancy dans l'entretien avec Jérôme Lèbre, Signaux sensibles, entretien à propos des arts, le récit que fait Jean-Luc Nancy de deux artistes ayant récusé le texte écrit pour un catalogue d'exposition. Soit parce qu'ils n'avaient pas parlé pour l'un d'une signification éthique mais plutôt développé les caractères plastiques, soit parce qu'en ne se tenant au plus près du sensible, il aurait privé l'autre d'aura intellectuelle. Mais bien sûr, si ces réactions font symptôme, elles prennent place dans le symptôme plus large d'un art en mal d'art au sein d'un monde en mal de monde, et cela n'est pas imputable aux artistes. Et pour cela, il faut relire Samuel Beckett et son fin de partie, cité par Jean-Luc Nancy dans Le sens du monde. Souvenez-vous de l'histoire du monde et du pantalon, dialogue entre un tailleur et son client. En 6 jours, vous entendez 6 jours, Dieu fit le monde. Oui, monsieur, parfaitement, monsieur, le monde. Et vous, vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en 3 mois. Mais Milord, regardez le monde et regardez mon pantalon. Ce qui a passionné Jean-Luc Nancy, c'est la persistance ou la résistance d'un art, chaque fois un et innombrable, la résistance à toute fonction, office ou service, à toute exhortation ou mise en demeure. Et c'est pourquoi, si l'art en a fini avec le service de la finition d'une fin, mais on en a toujours déjà fini depuis au moins Chauvet, il peut répondre pour nous à l'existence qui est son propre sens, à la surprise du sens que l'existence est. Mais bien sûr, Jean-Luc Nancy précise que sa réponse n'est pas d'abord esthétique, au sens courant du terme, mais plutôt comme un art inédit d'être au monde, à même l'esthésis, se traçant donc à même le sensible, comme le sensible même. Non pas un art de vivre, mais comme il le dit lui-même, l'ars, ou la techné de l'exister, soit la technique comme rapport à des fins sans fin, sans secret et sans raison. Un toucher d'exister. Autrement dit, un saluer, un se mettre à l'épreuve d'un sens qu'on ne maîtrise pas, un saluer l'inédit, saluer le nom donné qui se donne ou se présente sans donateur ni donataire, saluer la transmission, c'est-à-dire aussi bien la transformation, l'une n'allant pas sans l'autre, saluer ce qu'il appelle l'échéance de l'art. C'est dans l'art fragment à nouveau. Jean-Luc Nancy nous invite à penser le motif de l'échéance, en indiquant au préalable qu'il s'agit d'un angle assez rarement abordé dans l'approche de l'art, qui ne considère généralement que les côtés création et réception, échéance qui pourtant participe de ces deux côtés. Il présente l'échéance de l'art à partir du verbe échoir, dont l'étymologie latine via excadere renvoie au sens de sortir de, tomber hors de. L'échéance de l'art, c'est donc sa venue, son avoir lieu, son arrivée, soit d'une certaine manière l'accident, l'occasion ou la fortuité de l'art. Échoir, c'est aussi échoir à, soit être dévolu à quelqu'un ou quelqu'une, celui-ça ou celle-ça, c'est ainsi qu'il nomme singulièrement l'artiste. Et là, j'entends Clarice Lispector évoquer un celle-ça qui serait l'inconscience créatrice du monde. Je le cite donc évoquant cet échoir. La dévolution et l'attribution, le partage, la destination, la passation, le transfert par déroulement, dévolvere, par des pliements et des intrications. L'art fragment, l'art éclat ou l'art occasion est non seulement ce qui arrive par surprise, mais aussi ce qui se passe ou se transmet et se transforme des uns aux autres et de monde à monde. Ce motif de l'échéance touche aussi bien, nous allons le voir plus loin, l'artiste que l'amateur. Ce qui s'ouvre avec l'échéance de l'art est infiniment instable et fragile, comme est infiniment mince la limite qui distingue le déchoir de l'échoir ou l'échéance de la chute. En passant, Jean-Luc Nancy nous rappelle que le mot fragile fait d'ailleurs partie, comme le mot brèche, du sémantisme du fragment. C'est instable parce que c'est sans essence. Ça bat, ça pulse, ça vibre, ça s'écarte, mais ça ne suit pas son cours. La pensée y est surprise. Mais c'est ainsi qu'elle pense, nue, qu'elle approche, pèse et touche, et se touche et s'éprouve. Un art inédit, non pas à découvrir, mais à découvert. À nu, et c'est comme ça, peut-être depuis les grottes du paléolithique, grotte ou brèche, c'est devant nous, et nous sommes sur la brèche comme il l'écrit. Nous, comme la brèche elle-même, tracé hasardeux d'une rupture. Nous dessinant, nous chantant, nous dansant, nous pensant. Je le cite, « Il n'y a que nous, c'est la chose à découvert, l'être sans subjectivité, l'homme fini et la provenance insignifiable du sens. » Ce « nous » ne désigne ou ne représente aucune communauté. Ce « nous » est dit pour tous les étangs, puisqu'il n'y a sens qu'en commun, la coexistence et le sens. Un lieu sans demeure, donc. C'est-à-dire un lieu du sens sans signification, ou bien le sens comme ce lieu sans demeure ou mise en demeure. C'est ce que Jean-Luc Nancy a approché comme le lieu de l'art. Et si Freud a raison en effet de dire que l'art détient sur nous un savoir qui excède tout autre, cette leçon de l'art est celle d'un savoir-faire, je cite Jean-Luc, qui sait faire tout court, non pas faire ceci ou cela, mais faire pour que ça se fasse. Comme Jean-Luc Nancy l'écrit en décrivant chez le plasticien Albert Palma, cette infinie patience à tracer, à suivre la ligne en tous ses détours, retour à dévider ou enrouler sa pelote, à tresser, tisser, filer, trifiler, défiler. Ou bien encore, dans le carnet de notes pour une exposition intitulée « Trop », il précise que ce savoir-faire n'est pas un savoir suivi de son faire, mais un savoir qui ne sait qu'en faisant. Savoir-faire, geste ou exécution. Car ce qu'on appelle singulièrement l'œuvre n'est pas dans la préconception ou le programme, mais dans l'exécution, et cela excède la partition, la pièce, le scénario ou la notation chorégraphique, qui sont d'une certaine manière déjà une exécution. Je le cite. Le dessinateur, le peintre, le sculpteur ou le danseur ne cesse pas d'inventer l'œuvre en l'exécutant. L'opération de l'œuvre est cela même, cette invention, cette surprise et ce savoir-faire avec la surprise, cet art de s'en emparer en la laissant s'emparer de soi. Ce qui est noté là pour l'exécution à l'atelier vaut aussi pour celle qui a lieu dans le regard du visiteur, soit le visiteur Jean-Luc Nancy, à l'atelier de Shimon Antaï ou de Song Gikim, soit le visiteur de la galerie ou du musée, mais il faudrait élargir bien sûr l'exécution à la scène de théâtre ou de danse ou encore au plateau ou à la salle de cinéma. Jean-Luc Nancy poursuit. L'œuvre ne tient pas sur son seul présent, elle est toute en arrière et en avant dans les gestes qui la composent et dans les gestes qui la contemplent. Les gestes qui composent et les gestes qui contemplent, la formation et la réception, l'artiste et l'amateur forment, c'est le cas de le dire, sans doute, une même chose. Le premier agit en direction du second, même s'il n'a aucune intentionnalité, ni consciente ni déterminée. Le second, l'amateur, ne fait rien, reste dehors, s'il n'entre dans le geste du premier, s'il n'en épouse pas le mouvement, et avec le mouvement, le dépassement du mouvement et de l'immobilité. Le passage à la limite de ce qui fait figure, contour visuel ou sonore. Nous reconnaissons bien là encore l'amateur Jean-Luc Nancy, qui, s'il ne peut entrer dans la peau de l'artiste, peut entrer dans son geste et son mouvement, et côtoyant quelques artistes avec lesquels il a collaboré, tous sans exception, restent stupéfaits de sa disposition ou inclination à entrer dans leurs gestes et leurs mouvements. Par exemple, relisant Le plaisir au dessin, le peintre Bernard Monino m'a appelé pour me demander si Jean-Luc Nancy dessinait, car il ne pouvait pas comprendre autrement l'exactitude des propositions de ce livre. Je crois que nous pouvons dire en passant ici que la leçon de l'art excède aussi bien les artistes que les philosophes, qui sont frères et sœurs, comme Athéna, protectrice du savoir, et Héphaïstos, protecteur de l'amour de l'art, frères et sœurs, tous issus de la vie elle-même, comme le rappelle Jean-François Mattei dans un texte sur l'inspiration chez Platon. Frères et sœurs aussi bien dans leur atelier respectif que dans l'approche de leur art singulier, dans lequel ils font l'épreuve commune d'être les apprentis de leur art. Conversant avec la danseuse et chorégraphe Mathilde Monnier, Jean-Luc Nancy décrit très bien cette singulière entrée dans un geste et un mouvement, en s'appuyant sur le motif grec de la métexis, soit la participation, une métexis et une mimesis enlacées comme des amants. Je le cite, « Littéralement, le fait de partager une exis, c'est-à-dire un habitus, un comportement habituel au sens où l'habitude n'est pas la routine ni le mécanisme, mais une disposition, une tenue au sens où l'on parle de la tenue du corps, de la façon dont on tient son corps. Il s'agit de partager une disposition à, une disposition du corps à occuper l'espace et à faire espace, poids, volume, écartement, élan, de telle ou telle manière. Partage qui a lieu entre le danseur et le lieu, entre le danseur et lui-même, le danseur et le chorégraphe, le danseur et le spectateur. Il s'agit de la communication d'une énergie et d'une contagion de cette énergie. Et cette énergie et sa contagion proviennent d'un choc, d'une émotion, d'une touche, ou autrement dit un événement ou une rencontre, d'un toucher, se toucher, d'exister. Comme il l'écrit, toute œuvre est une onde de choc. Et c'est bien cette onde qui se propage et se module en nous, entre nous. Or, je cite Jean-Luc Nancy dans Du sens musical. Cela même, cette onde propagée et modulée, c'est le sens où cela fait le sens. Il n'y a de sens que dans un renvoi du sensible à lui-même. Le sentant et le senti ne se pouvant ni séparer ni confondre, et l'ascension et la sensation, mais aussi bien le sentiment et même le sens intellectuel, n'ayant jamais lieu que dans cette réciprocité d'un émetteur et d'un récepteur, d'un dedans et d'un dehors, d'un même et d'un autre. Comme le dit Bataille, il n'y a pas de sens pour un seul. J'ajouterai volontiers que la musique est donc la première manifestation de la non-solitude, au double sens où elle ouvre un rapport au monde et où elle le fait à plusieurs. Car un seul musicien est déjà deux. Il fait vibrer sa corde ou son tuyau et il l'écoute et il s'écoute, sa musique s'écoute. Avec l'instrument de musique ou avec la voix traitée comme instrument, l'homme n'utilise pas un moyen, il se prolonge ou se propage bien plutôt lui-même, il s'emporte lui-même, il se fait vibrer au-delà de lui-même. Fin de citation. Se faire vibrer au-delà de lui-même, c'est peut-être cela que Jean-Luc Nancy a cherché dans tous ses frayages avec les artistes et surtout dans ce qu'il a appelé atelier. Par exemple, à propos d'un projet d'exposition qui n'a pas pu se faire avec Shimon Antaï et qu'il pense ainsi dans une lettre de leur correspondance, dans Jamais le mot créateur, on peut exposer en ouvrant par l'exposition même un espace-temps de travail. On le peut, j'en suis certain, et je me demande jusqu'à quel point on ne le doit pas. Exposer n'est pas forcément montrer au sens ancien de mettre en montre, en vitrine et en vedette. Cela peut être aussi s'exposer, se laisser mettre au dehors, à la porte presque, oui, à la porte de l'atelier où on resterait seul avec la peinture. Ou bien encore, dans l'exposition que j'ai déjà mentionnée, trop à Montréal, avec François Martin et le musicien Rodolphe Bourget. Exposition qu'il appelle, faute de mieux, atelier, et dont il rappelle le désir d'un lieu sans demeure, je le cite, non pas exposer quelque chose de donné, œuvre ou discours sur des œuvres, mais mettre en branle un dispositif de présentation, présenter une approche qui soit l'approche de l'impossible exposition, justement, de quelque chose comme l'art, de l'art, et ou une pensée de l'art. Se faire vibrer au-delà de lui-même, cela ne vous aura pas échappé, convoque bien sûr le motif du désir, Eros est là, que Jean-Luc Nancy évoque comme désir de passer au dehors ou ailleurs. Là encore, c'est l'éthos en tant que tenue. Ici, la tenue du désir ou le désir tenu, sans résolution de sa tension, sans la décharge freudienne. Cela, bien sûr, a à faire avec la beauté, comme éclat du vrai, tremblement, secousse, suspens, spasme, ou sentir l'instant, ou le sentir de l'instant, ou sentir le sens, ou sentir le sentir du sens en tous les sens, ou comprendre, prendre avec, comprendre ou sentir, c'est donc toujours déjà, et ce depuis la naissance, comprendre et sentir l'échappée du sens, ou le sens comme échappée. Tout a peut-être commencé par la beauté, pour reprendre et saluer le titre d'un volume des écrits sur l'art de Jean-Marie Pontevia. Dans les petites conférences proposées par Gilbert Tsai au théâtre de Montreuil, Jean-Luc Nancy est venu parler, à la demande de Gilbert Tsai, de la beauté aux enfants. Après avoir écouté le Lamento d'Ariana de Monteverdi, et avant de montrer le Narcisse du Caravage, il déploie avec eux cette force ravissante du beau, je le cite. Force ravissante du beau qui fait s'ouvrir en nous quelque chose de l'ordre d'un désir qui ne va nulle part, sinon au-delà, plus loin. Passage à la limite, le beau hors de soi. Nous touchons là à ce que Michel Degui appelle le profond chêne de l'existence, le sublime, dont il faut rappeler également ce que Kant décrit du plaisir singulier provoqué par le sentiment sublime. Je le cite. Un plaisir qui ne surgit que de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il est produit par le sentiment d'un soudain blocage des forces vitales, suivi aussitôt d'un épanchement de celle-ci. Mobilisé et requis par l'atelier, celui des artistes, mais également le sien, puisqu'il constatait que s'il se sentait si bien dans les ateliers visités, c'est qu'il s'y sentait comme chez lui, à l'atelier. Mobilisé et requis par l'atelier, Jean-Luc Nancy s'est exposé littéralement, s'est laissé abandonner. C'est cela aussi pour lui ce que penser veut dire. Soit, comme il l'écrit, tenir le pas suspendu sur ce sens qui nous a déjà touchés. À l'atelier donc, entrant dans le geste et le mouvement de l'autre, artiste, touchant l'autre en lui, comme lui, un peu comme dans ce jeu d'enfant que l'on trouve dans un éclat du pas au-delà de Maurice Blanchot. Je cite. Comme s'y avait retenti d'une manière étouffée cet appel, un appel cependant joyeux, le cri d'enfant jouant dans le jardin. Qui est moi aujourd'hui? Qui tient lieu de moi? Et la réponse joyeuse, infinie, lui, lui, lui. C'est beau, pourrions-nous nous exclamer, faisant signe en passant à la très belle idée d'Eliane Escoubas, indiquant que le jugement du beau ou du sublime n'est pas attribution, mais exclamation. Et de cette exclamation, Jean-Luc Nancy a cherché à dire dans le sillage de Kant combien il ne s'agissait pas de nous plaire les uns aux autres, mais d'un plaisir pris ensemble à l'abandon, peut-être, au geste de s'abandonner, de nous faire vibrer au-delà de nous-mêmes, de nous abandonner à cette intensification d'un sens, en tous les sens, qui se redemande, d'un sentir, d'un comprendre, d'une sensualité spirituelle, ou bien, comme il écrit avec Jérôme Leb dans l'entretien Signaux Sensibles, déjà mentionné, l'insensé d'une sensibilité. Ce plaisir d'une intensification d'être, cette jouissance esthétique, est, écrit-il dans Trop, son carnet de notes pour l'exposition, jouissance ontologique. Ce que nous avons appelé un toucher d'exister, une manière, une allure, un art singulier pluriel de consentir à l'existence aussi bien qu'à la mort. Comme j'ai ouvert cette conférence avec deux propositions, celle d'un écrivain, Gérard Haller, et d'un philosophe, Thomas Schmeier, je vais l'ouvrir de nouveau, pour ne pas en finir, avec deux propositions, une de Jean-Luc Nancy, issue d'un texte intitulé « Art et santé », donc paru dans l'ouvrage dirigé par Thomas Schmeier, « Persistance de l'art », et un autre de l'écrivain Michel Degui, extrait de son livre « Le sens de la visite », et cela va sans dire, ce titre condense d'une manière inouïe cet art inédit d'être au monde. D'abord Jean-Luc Nancy. C'est une longue citation, mais elle est nécessaire, ici et maintenant, et concerne ce que l'art a à faire avec notre existence commune. Ce qu'il a à faire avec elle ne relève ni de la religion ni de la politique, pas plus que de l'économie, du système de parenté, du droit ou de toutes les techniques afférentes. Il est étroitement dépendant des dispositifs matériels, symboliques et affectifs qui déterminent un moment de culture. Il y prend ses occasions, ses mobiles, ses prétextes. Il y trouve aussi des formes, des schèmes, des gestes, des tonalités. Mais ce qu'il fait dans l'existence commune ne consiste ni à l'organiser, ni à modeler son destin, ni à lui donner aucune espèce de raison première ou dernière. Il la retire plutôt à ses sphères ou à ses ordres pour la tourner vers elle-même. En tant que le commun n'est pas seulement ce qui associerait des individus, ni ce qui fonderait une communauté, mais ce qui nous fait nous rapporter les uns aux autres, indépendamment des rapports de force, d'intérêt et de croyance. Ce qui nous rapporte les uns aux autres, c'est que nous puissions échanger des signes d'une finalité sans fin. Car seule une telle finalité, soumise à aucune attente d'accomplissement ni de destin, qu'il soit historique ou surnaturel, répond à notre existence et très précisément au fait que cette existence est en commun, qu'elle est essentiellement être avec ou essentiellement partage. Partage des voix, des signes, des gestes, des formes. Partage du souci de chercher à partager. Qui n'est pas seulement le souci de communiquer, mais le souci de la proximité de l'avec. Car dans cette proximité, et uniquement en elle, se joue ce qu'il en est du sens. Non du sens formé, institué et destiné, mais du sens, si j'ose le formuler ainsi, à l'état pur, c'est-à-dire à l'état naissant, à l'état de signe ou signal sensible, qui indique autre chose qu'un usage, une fonction, une légitimation. Que se passe-t-il lorsque certains peignent des animaux sur les parois de grottes, lorsque d'autres font vibrer en cadence des cordes tendues ou l'air soufflé dans les tuyaux, lorsque d'autres encore racontent des histoires dans une langue spécialement travaillée, réinventée? Il se passe que des propositions de sens sont faites. Il se passe que quelques-uns, au moins, se sentent comprendre ou éprouver que ces propositions sont bien les leurs, et qu'ils ne l'auraient pas su si elles ne leur avaient été faites. Que ce partage soit d'abord ostensiblement celui d'un petit nombre, n'empêche pas que par des contagions imperceptibles et par des déplacements, des transpositions, à travers aussi des sphères différentes d'activités artistiques, car les arts populaires participent du même mouvement, quelque chose du commun, c'est-à-dire du sens, a lieu, et que cela est sans fin. Et enfin, Michel de Guy, c'est plus court mais pas moins vif, et sublime, ce qui retombe moins vite que nous, les pesants. Je vous remercie.